Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique, intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr.
Bienvenue aux émissions de conflit, ravi de vous retrouver pour cette série d'été que nous consacrons à la philosophie politique et à l'histoire de la philosophie politique. Je vous rappelle aussi que durant cet été, vous pouvez retrouver notre numéro de conflit en kiosque consacré au golfe de Guinée et aux interactions entre les trafiquants de drogue et les djihadistes, ainsi que notre hors-série consacrée à la géopolitique de la santé. Merci donc pour votre fidélité et en vous abonnant, vous permettez à Conflit de continuer à se développer et de vous proposer également du contenu en libre accès, comme ces séries d'émissions que vous pouvez écouter tout au long de l'été. Abonnez-vous donc, faites abonner vos proches en allant notamment sur notre site revueconflit.com et vous nous permettrez ainsi de continuer à vous proposer ces différents contenus. Alors cet été, Conflit vous propose donc une série estivale consacrée à la philosophie politique parce qu'il est important d'évoquer les grands auteurs, d'évoquer les grands penseurs et de comprendre le rôle que ceux-ci jouent dans la formation des idées et donc dans la formation de la société qui est la nôtre. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer un des grands esprits du XXe siècle, Friedrich August Hayek, prix Nobel d'économie, mais d'abord et avant tout un juriste, quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux questions du droit. On a très souvent tendance à réduire Hayek, voire à le caricaturer, et à passer à côté de sa pensée, et notamment du rôle extrêmement important qu'il a eu dans la définition de ce qu'est un droit, si je puis dire, un droit juste. C'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui, la conception du droit, selon Friedrich Hayek, avec mon invité, Philippe Nemo. Bonjour. Merci Bonjour. Beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes philosophe, vous avez été professeur à l'ESCP et à HEC, et vous êtes actuellement professeur à l'École professorale de Paris, qui forme des étudiants qui veulent devenir professeurs. J'invite d'ailleurs ceux de nos auditeurs qui seraient intéressés par ces métiers à aller voir le site de l'École professorale de Paris pour voir l'ensemble des formations que vous proposez. Et vous avez consacré un ouvrage à Hayek, la société de droit selon Friedrich August Hayek, qui est paru en 1988 au PUF. Et je mentionne également un ouvrage monumental que je recommande toujours à mes étudiants, une histoire des idées politiques en deux tomes, qui est paru au PUF également. Chaque tome fait à peu près 1000 pages. Le premier allant de l'Antiquité au Moyen-Âge et le deuxième des temps modernes à aujourd'hui. Et avec cette histoire des idées politiques, eh bien, ceux qui s'intéressent à ces sujets ont ainsi un panorama complet des grands auteurs et des grands philosophes. Alors, nous allons parler de Hayek aujourd'hui. Un des principaux ouvrages de Hayek, peut-être pas le plus connu. Le plus connu, c'est peut-être La route de la servitude. Mais un des principaux ouvrages, c'est Droit, législation et liberté, que l'on peut trouver en français au PUF, dont vous avez d'ailleurs assuré la préface. Et dans cet ouvrage, Hayek montre donc bien l'importance du droit, la question de la législation et la question de la liberté. Alors Philippe Nemo, avant de voir peut-être comment Hayek conçoit le droit, peut-être quelques mots sur qui il est, ça, en un très bref résumé. Pourquoi est-ce qu'Hayek est important et quelle était un petit peu sa vie?
Écoutez, il a été professeur. Il a fait à Vienne. Il est né au début du siècle à peu près. Hein, il est mort en 1992. J'ai plus la date en tête, mais c'est
92,
c'est ça. Et donc, il a fait des études à Vienne. Il était autrichien. Et traditionnellement, dans les études de Vienne, ils n'ont pas de classe préparatoire et d'école normale supérieure comme chez nous, avec des formations donc pluridisciplinaires. Hein. Mais par contre, tous les étudiants doivent faire deux cursus. C'est ainsi que Karl Popper a fait un cursus de philosophie et de physique. et que Hayek a fait un cursus de droit et d'économie. Alors, ça le plaçait, enfin, ça lui donnait des éléments, des matériaux de réflexion suffisamment fournis, hein, pour avoir une réflexion très, très approfondie sur la relation entre les deux, entre le droit et l'économie, puisque finalement, pour lui, la grande idée, c'est que l'économie, c'est un réseau d'échanges. Et c'est-à-dire la raison pour laquelle il veut plus l'appeler l'économie, parce que ça vient des mots grecs oikos et nomos, qui supposent qu'il s'agit de gérer une maison, hein. D'ailleurs, c'était le sens qu'avait le mot économie en grec. Oikonomia, c'est la gestion de la maison. Et donc, quand Aristote l'a appliqué à la cité, c'était un abus de langage, hein, puisqu'il avait l'air de considérer qu'on pouvait gérer une cité comme un chef de famille gère sa maison, si vous voulez. Donc, il supposait que le dirigeant de la cité connaisse aussi bien la cité, toutes ses ressources et tous ses besoins, qu'un père de famille peut connaître les ressources et les besoins de ses enfants ou de ses serviteurs. C'était donc, de la part d'Aristote, une erreur épistémologique, mais qui s'expliquait par la petite taille des cités grecques. Et dans le monde actuel, les échanges économiques se font sur une bien plus grande échelle. Et à ce moment-là, personne, et donc l'économie mondiale n'est pas une maison, justement, quelque chose qu'un maître de maison puisse voir et dominer et gérer. Ce sont plein de maisons, des millions de maisons qui sont interconnectées, mais qui ne peuvent pas être soumises à un seul chef. Car si elles étaient soumises à un seul chef, par exemple le gouvernement mondial qu'on est en train d'essayer de nous concocter, eh bien, bientôt, le réseau d'échange serait réduit à ce que peut gérer un seul chef ou une équipe, si vous voulez. Hein. Et le nombre d'informations qu'un seul cerveau peut gérer ou qu'une équipe de quelques cerveaux peuvent gérer est exponentiellement inférieur au nombre d'informations qui sont utilisées à toute seconde partout dans le monde. Vous avez des gens qui ont besoin de quelque chose, qui vont sur un marché, qui trouvent ou ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, et puis vous avez des gens qui essayent de leur vendre quelque chose. Donc tous ces gens-là sont porteurs d'une information, et tout le mystère de l'économie, c'est de savoir comment cette information dispersée et irrémédiablement dispersée, puisque je le répète, aucun cerveau n'est assez grand pour la concentrer en lui seul et pour la traiter lui seul. Comment toute cette information dispersée va néanmoins être utilisée de façon coordonnée. Et c'est donc pourquoi Hayek refuse le mot économie et veut le remplacer par le mot catalaxie. Catalaxie, ça vient du mot grec katalaktein, qui veut dire échanger. Mais en plus, il y a une nuance morale, c'est que si vous procédez à quelqu'un que vous rencontrez à un échange, ça veut dire que vous ne lui tapez pas dessus et qu'il vous tape pas dessus. Il n'y a pas de guerre, hein. L'échange remplace la guerre, en quelque sorte. L'échange mutuellement profitable est une conduite préférable, moralement et intellectuellement, au conflit. Bon. Donc une catalaxie, c'est un réseau de gens qui veulent bien échanger entre eux, pacifiquement, au lieu de se faire la guerre. Et voilà pourquoi. Mais seulement le problème, c'est que pour échanger, il faut des règles d'échange, des règles du jeu, si vous voulez. D'ailleurs, Hayek compare souvent la vie sociale à un jeu, mais pas au sens où ça serait pas sérieux, hein, mais au sens où c'est une pratique, une activité qui se déroule selon des règles. Et évidemment, si les gens ne respectent pas les règles ou ne les connaissent pas, alors à ce moment-là, on débouche sur un conflit. Mais comme l'humanité a fait l'expérience, siècle après siècle, et guerre après guerre, du danger qu'il y a à avoir des conflits, puisqu'on finit par mourir, hein, elle a aussi trouvé, par essai et erreur, les règles à respecter telles que ça soit possible de coexister pacifiquement et de façon mutuellement féconde, en quelque sorte, en s'aidant mutuellement par des échanges, et en faisant en sorte que ces règles soient effectivement respectées par tous, et ceux qui ne les respectent pas, à ce moment-là, il faut prévoir un État qui punit les tricheurs, hein, comme au jeu de tennis où vous avez un arbitre. Alors, tant que les joueurs jouent selon les règles et on voit les balles dans les bonnes zones, l'arbitre ne dit rien, hein. Mais s'il y a une balle qui sort, À ce moment-là, l'arbitre siffle. Hein. Et c'est comme ça que Hayek conçoit, enfin, on va avoir l'occasion d'approfondir, mais c'est, en gros, c'est comme ça qu'il conçoit la bonne situation dans une société moderne où il y a une immense division du travail. Hein. On l'a bien vu encore récemment avec la crise du Covid, on s'aperçoit que pour faire des médicaments, il faut non seulement des usines ou des médecins qui conçoivent les médicaments, mais il faut aussi plein de matières premières. Il paraît que pour faire un vaccin Pfizer, il faut 800 ingrédients. Hein. Et là où se trouvent ces 800 ingrédients? Alors, il y a toujours quelques-uns qui manquent. Hein. Et donc, toute la vie moderne sur la planète est liée à l'existence de ce réseau d'échange. Et les règles d'échange, elles sont uniques dans leur genre. Ce sont toujours des règles de comportement. Hein. Comment dois-je me comporter à l'égard d'autrui dans chaque situation, de manière que je ne sois pas en conflit avec lui et qu'il estime que nos relations sont conformes à ce qu'il attend. Hein. Il peut anticiper que je me comporterai d'une certaine façon parce qu'il croit que je respecterai certaines règles, et inversement, je peux anticiper qu'il se comportera d'une certaine façon, et par conséquent, nous nous entendons, hein, au sens où nous partageons la même vision de la situation. Eh bien, donc des règles de comportement, mais il y en a à deux niveaux, ou bien des règles dites morales, parce que ce sont des règles de justice mutuelle, et si quelqu'un les enfreint, à ce moment-là, la relation est rompue, et on prend le type pour un sale type, on ne peut plus avoir affaire à lui, ou bien alors ce sont des règles tellement importantes que l'expérience des siècles a montré que si quelqu'un ne les respecte pas, il y a des risques de conflit et en plus de contagion du conflit. Hein, toute la société risque d'être bientôt prise dans une guerre civile, en quelque sorte. Et il est donc extrêmement important que les gens ne les enfreignent pas, ces règles. Et à ce moment-là, ce sont des règles dont le respect est assorti d'une sanction, et d'une sanction efficace, hein, pour dissuader les gens de violer les règles. Hein. Et pour qu'il y ait une sanction efficace, il faut qu'il y ait une force disproportionnée par rapport à l'individu, et cette force, c'est l'État. Et c'est pourquoi les règles, à ce niveau, ne s'appellent plus morale, mais droit. Et ce sont donc, en résumé, c'est la situation qui prévaut dans le monde actuel. Vous avez plein de gens qui participent à l'économie parce qu'ils échangent des biens et des services conformément à des règles de droit. Voilà. Et voilà pourquoi Hayek, en étudiant le droit et l'économie, était bien placé pour comprendre ce système.
Alors, ça suppose de comprendre la notion d'État, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, mais avant cela, par rapport au droit, traditionnellement, on distingue deux types de droits, il y a le droit positif et le droit naturel, et ça a des conséquences philosophiques extrêmement importantes, notamment dans la façon dont une société est organisée. Comment Hayek distingue les deux, droit positif et droit naturel? Quelle définition donne-t-il aux deux et quelle articulation voit-il entre les deux?
Eh bien, il a contribué à renouveler complètement la problématique parce qu'il distingue. C'est pour ça que c'est un penseur éminent. Hein, c'est un très grand penseur. Hein, il a cru modestement au début de sa vie être un économiste, et en fait, il est devenu un philosophe. Au sens le plus vaste du terme, parce que précisément il a dû sortir des modèles propres à sa discipline pour avoir une vision plus d'ensemble, hein, et justement réfléchir sur le droit, par exemple, ce que en général les économistes ne font pas plus que dire que les juristes ne réfléchissent sur les problèmes économiques. Et donc il a été amené à réfléchir du coup aussi sur la sociologie et sur l'anthropologie. Et aussi sur l'histoire. Hein, donc, il a fini par acquérir une immense culture dans ces différents domaines. Et son système, car il a un système, hein, il faut toujours se moquer des systèmes, parce que les gens qui sont capables de faire des systèmes qui expliquent les choses, ils font avancer la science. Hein. Alors après, on peut peut-être critiquer le système sur tel ou tel point, ou dire qu'il explique incomplètement tel ou tel phénomène, mais c'est déjà pas mal d'avoir fait un système. Alors donc, lui, il est confronté à cette notion, en effet, du droit naturel et du droit positif. Mais il l'intègre dans une réflexion générale sur la notion d'ordre social. Et au fond, distingue trois grandes périodes. L'une, comment dire, primitive, à savoir la notion de l'ordre social qui prévaut dans les sociétés dites primitives ou archaïques, ou encore appelées sociétés sans État, justement, puisqu'elles se caractérisent par le fait qu'elles n'ont pas d'État, elles n'ont pas encore d'État. L'État apparaît tardivement dans l'histoire, à moins 3000 ou 4000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Et toutes les sociétés antérieures connues, et aussi toutes les sociétés contemporaines jusqu'au XXe siècle, qui n'ont pas été touchées par les révolutions qui vont avoir lieu depuis l'an moins 4000 jusqu'à aujourd'hui, en passant par la Grèce, Rome, etc. Hein. Vous avez plein de sociétés qui n'ont pas connu ces changements et qui ont vécu sous forme de sociétés sans État. Et ces sociétés, il faut bien qu'elles aient un lien social, qu'elles soient soudées par quelque chose. Et elles le sont par la croyance dans des religions, hein, dans des religions extrêmement prescriptives qui déterminent ce qui est permis et interdit, et qui fondent cette croyance dans ces règles sur un récit fondateur, un mythe, hein, qui leur explique que les choses ont été faites ainsi au début des temps, et que si des hommes veulent s'écarter de ces règles, ils vont attirer sur eux-mêmes, mais surtout sur le groupe tout entier, la colère des dieux, moyennant quoi tout le monde doit participer au sacrifice, scrupuleusement, au rite sacrificiel, hein, et il n'est pas question de s'écarter du groupe, ou alors on serait perçu par le groupe comme une menace, et donc éliminé à ce titre. Et donc le groupe, en fusion, en quelque sorte, admet qu'il y a des règles absolument intangibles que tout le monde doit respecter, sinon il va y avoir des malheurs épouvantables qui vont peser sur le groupe. Alors, ces règles étant expliquées par l'action des dieux, hein, des puissances surnaturelles, sont absolument intangibles. C'est leur intérêt, hein, puisque donc tout le monde s'y conforme. Mais il est remarquable qu'elles soient indistinctement naturelles et sociales. Si vous voulez, c'est le dieu Amon-Ra qui a établi le pharaon en Égypte. Bon, voilà, une règle sociale, il a créé une monarchie. Hein. Mais c'est le même qui a aussi créé le ciel et la terre. Bon. Donc, si vous êtes adhérent à la religion de votre groupe, vous devez croire que les dieux ont voulu tout l'ordre qui existe, que ce soit l'ordre des choses naturelles ou que ce soit l'ordre des choses sociales. Et c'est d'ailleurs pourquoi, évidemment, quiconque voudrait remettre en cause l'ordre social serait suspecté de vouloir remettre en cause l'ordre naturel, hein. Et donc ça paraît tout à fait absurde, parce que si vous voulez, vous pouvez pas supposer que le soleil va pas se lever demain matin, hein, ou que la mer ne va pas avoir de tempête, hein. Donc l'ordre naturel paraît absolument, lui, intangible. Mais pour les hommes des sociétés primitives, l'ordre social est tout aussi intangible. Bon. Alors voilà une première, alors on pourrait discuter de ça longtemps, mais voilà une première notion de l'ordre. Et puis, Hayek souligne que, les Grecs, car c'est eux qui ont fait cette innovation, ils sont les premiers à l'avoir faite, c'est toujours le mystère de l'histoire, hein, pourquoi des innovations sont faites dans l'histoire. Toujours est-il qu'il y a eu un miracle grec, et que ce miracle grec consiste précisément dans le fait d'avoir distingué l'ordre naturel et l'ordre social. Et pourquoi ? Parce que les Grecs ont colonisé la Méditerranée, donc et la mer Noire, donc ils ont été au contact, enfin pour reprendre l'histoire dans l'ordre, hein, ils ont été détruits par des envahisseurs en l'an 1200 avant Jésus-Christ. Il y a une grande régression, hein, de cités grecques, qui auparavant étaient des monarchies sacrées, ayant cet ordre indistinctement cosmique et social dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'était des sociétés de type archaïque, sauf qu'elles avaient l'État, mais c'était aussi des sociétés fondées sur la religion. Et puis, ces sociétés ont été détruites par des méchants envahisseurs venus du Nord. Il y a eu trois ou quatre siècles de régression, de siècles obscurs où l'écriture disparaît. Et puis, au bout de ces trois ou quatre siècles, apparaît une chose nouvelle qui est la cité. Et la cité grecque, c'est une forme d'État qui n'est plus monarchique. Hein, parce que précisément, il n'y a plus de consensus possible sur le mythe. Il n'y a plus de mythe qui rassemble réellement tout le monde. Donc, les Grecs sont obligés d'inventer la démocratie, d'inventer la république, si vous voulez, une république, qui est un endroit dans lequel on peut prendre des décisions collectives que si on a persuadé les gens que c'était les bonnes décisions. Donc il faut discuter. Alors là aussi, je n'ai pas le temps de développer ça, mais vous avez une invention de la rationalité par les Grecs. Et à partir du moment où ils ont inventé la rationalité, quand ça leur confère une supériorité civilisationnelle et de force, et ils se mettent à essaimer et à coloniser plein d'endroits tout autour de la Méditerranée et de la mer Noire, comme je le disais à l'instant. Et alors là, ils rencontrent des peuplades différentes, qui ont toutes des mœurs différentes. Et comme ils ont la rationalité, ils se mettent à réfléchir là-dessus. Alors c'est le fameux travail des sophistes qui commencent à réfléchir sur les récits, précisément, des voyageurs. Et ils s'aperçoivent que vous avez plein de peuples, les Égyptiens, les Ibériques, les Celtes, ou les Scythes, hein, ancêtres des Russes, au nord de la mer Noire, qui ont des coutumes bizarres, tout à fait différentes des coutumes grecques. Mais par contre, ils ont tous un nez au milieu de la figure, deux yeux pour regarder, une bouche pour parler et pour manger, ils ont des organes sexuels, etc. Et donc, il y a une sorte de communauté de nature entre les Grecs et eux. Donc, il y a une nature qui est universelle. Et par contre, il y a des règles sociales qui diffèrent d'un peuple à l'autre et qui, d'ailleurs, peuvent aussi différer d'une époque à l'autre. Bon. Et du coup, on va distinguer ces deux types d'ordre, et ça va donner cette fameuse distinction d'ordre naturel et d'ordre de droit naturel et de droit positif, hein, ce qui est fait par nature, fusei, hein, le mot nature étant fusis, et ce qui est fait par nomos, c'est-à-dire par convention, hein, par une chose que les latins traduiront par positivus, une chose que l'on pose, hein, une chose que l'on crée. Que les humains créent eux-mêmes, en quelque sorte. Et pendant des siècles et des siècles, j'accélère pour en arriver à l'innovation du Hayek. Pendant des siècles et des siècles, l'Europe, les pays héritiers de la culture gréco-romaine, ont vécu sur ce dualisme. Il y a une nature et il y a un artifice. Il y a deux types d'ordre. Hein, et ce qui distingue les deux types d'ordre, c'est que l'un est absolument intangible, hein, transcendant, par conséquent, il a forcément été créé par les dieux ou par Dieu quand le monde gréco-romain va devenir chrétien. Et puis il y a un autre type d'ordre qui, lui, dépendant des hommes, eh bien, il peut être changé par les hommes. Et c'est donc aussi pourquoi les Grecs ont inventé la pensée politique, parce que la pensée politique, ça consiste à chercher de meilleures solutions pour gérer la vie commune. Mais on ne peut chercher de meilleures solutions que si on croit qu'on a le droit d'en changer, que l'on peut en changer. Sans que le ciel vous tombe sur la tête, comme paraît-il les Gaulois le croyaient. Bon, mais c'est une phrase assez intéressante que les Gaulois croient que le ciel va leur tomber sur la tête, hein, parce qu'ils croient qu'on ne peut pas bouleverser l'ordre indistinctement cosmique et social. Alors les Grecs, eux, font cette distinction, et la civilisation gréco-romaine va donner naissance à la civilisation européenne et pendant des siècles et des siècles, on va vivre sur la foi qu'il existe ces deux types d'ordre. Et par conséquent, ce qu'on va dire en termes juridiques, c'est que le droit positif, le droit créé par les différents peuples, eh bien, il peut différer selon les peuples, certes, mais il ne doit pas être contraire au droit naturel. Voilà. Donc le droit naturel va être une norme qui s'impose, au fond, à tous les droits positifs, étant entendu que le droit naturel donne certains principes, mais ne donne pas tous les détails. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, si vous êtes sur une route, alors c'est encore plus vrai à l'époque moderne, vous vous croisez à 100 à l'heure avec une voiture qui vient dans l'autre sens, c'est pas au dernier moment qu'il faut se demander si on va passer à droite ou à gauche. Il faut bien qu'il y ait une règle qui dise que on passe à droite, et puis vous avez des gens bizarres qui ont les anglais qui passent à gauche. D'ailleurs, ça donne lieu à de nombreux accidents quand les conducteurs passent d'un continent à l'autre. Hein. Ouais. Bon, mais en tout cas, vous êtes bien d'accord que il est rationnel de convenir, d'avoir une convention selon laquelle on se croisera à droite et à gauche. Et d'ailleurs, c'est vrai au temps moderne parce qu'il y a des automobiles, mais je suppose que c'était déjà vrai dans le passé quand il y avait des voitures à cheval. Bien. Mais ce que dit le droit naturel, c'est simplement qu'il ne faut pas se tamponner parce que personne n'a envie de mourir. Mais par contre, il ne dit pas s'il faut se croiser à droite ou à gauche. Donc, vous avez un principe de droit naturel, mais vous avez plusieurs possibilités en droit positif. Donc, le droit positif a la latitude de choisir telle ou telle option, mais il ne faut pas que cette option soit contraire au droit naturel. Par exemple, si la convention consiste à dire chaque fois que vous voyez une voiture en face de vous, vous allez lui rentrer dedans, il pourrait y avoir une assemblée avinée qui vote une telle loi, hein, à vos jours, et cette loi serait de droit positif, mais elle serait absolument contraire au droit naturel. Donc, les juristes ont parfaitement le droit de contester la légitimité de cette loi. D'ailleurs, ce qu'on appelle légitime, c'est ce qui est conforme au droit naturel. Et le reste n'est que légal. Hein. Et on a tout à fait le droit de distinguer le légal et le légitime. Et on a même le devoir, hein, puisque l'expérience montre là aussi que bien souvent, les gens qui ont le pouvoir de faire des lois de droit positif en abusent pour servir leurs propres intérêts. Ou leur propre conception de la société. Et donc, il est normal qu'on puisse les distinguer. Alors, on a donc ces deux types d'ordres.
Et le troisième ordre, donc.
Comment ?
Et donc, le troisième ordre.
Mais j'y venais, mais c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des choses, quand je dis des choses, il y avait des ordres qui semblaient ne pas pouvoir être classés comme naturels ou artificiels. Alors, je vous donne des exemples, qui sont des exemples fameux. La langue, hein, le langage. Hein. Si c'était un ordre naturel, eh bien, tous les hommes parleraient la même langue, de la même façon qu'ils ont tous un nez au milieu de la figure et deux yeux et une bouche, comme je disais tout à l'heure. Alors, est-ce que, puisque ce n'est pas un ordre naturel, est-ce que c'est un ordre artificiel? Eh bien, si c'était le cas, on pourrait inventer une langue artificielle. Tout le monde parlerait aujourd'hui espéranto, par exemple. Hein. Eh bien, on sait bien que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, l'espéranto a lui-même été bâti à partir de langues naturelles. Hein, bon. Et donc, la langue n'est ni un ordre naturel, ni un ordre artificiel. Ça, c'est grave. Bon. La morale est-elle naturelle ou artificielle? Eh bien, là encore, si elle était naturelle, tous les peuples du monde auraient la même morale, les mêmes types de comportements, et ce n'est pas le cas, ils diffèrent. Alors, elle est artificielle. Eh bien, si c'était le cas, on pourrait créer une nouvelle morale, ou on pourrait dire que la morale traditionnelle est mauvaise, on va la remplacer, on va faire table rase, et on va la remplacer par une nouvelle morale. Bon. Et tout ce qu'on observe dans l'histoire, c'est que, on observe dans l'histoire que jamais de telle création ex nihilo d'une nouvelle morale n'a été réalisée, et que même les plus grands hommes qui ont le plus changé la morale, comme Jésus, ou comme Moïse, ou Jésus, ou Mahomet, hein, ne l'ont pas changé entièrement, mais ont réformé une morale préexistante. Donc, là encore, la morale est un ordre bizarre qui ne peut être classé ni comme un ordre naturel, ni comme un ordre artificiel. Alors, prenons maintenant le droit, puisque c'était... Je sens que voilà la question vous brûle les lèvres. Le droit est-il un ordre naturel ou artificiel? Eh bien, alors, il n'est pas naturel parce que la nature ne parle pas, en quelque sorte. Donc, s'il s'agit de lois que l'on puisse mettre en mots et par écrit, il faut bien que ce soit les hommes qui les mettent en mots et par écrit. Et quand ils le font, ben justement, ils le font différemment en Chine et en Inde et en Europe et en Russie et chez les papous. Hein. Alors, donc, le droit ne saurait être une norme naturelle dès lors que c'est véritablement un droit, dès lors qu'il est formulé. Hein. Même si on peut prendre la nature comme norme surplombante. Hein. Encore une fois, on peut souhaiter que le droit ne soit jamais contraire au droit naturel. Mais il dit toujours plus et autre chose que le droit naturel. Alors, est-ce qu'il est, par le fait même, artificiel? Eh bien, vous avez plein de gens qui le croient. Et de plus en plus, d'ailleurs, malheureusement. Hein. À savoir que, ben, puisque le droit, c'est ce que fait l'État, il suffit que l'État édicte telle règle qui lui paraît juste, et cette règle va s'appliquer. Et le droit ainsi créé va engendrer une société. Enfin, d'abord, que c'est possible que ce droit artificiellement créé engendre une société, mais en plus, beaucoup croient que la société ainsi créée, artificiellement par le droit, sera meilleure que la société du passé. Eh bien, c'est cela qui, là aussi, ceci est réfuté, puisque chaque fois qu'on a voulu faire table rase du système de droit existant, eh bien, on n'a pas progressé, mais au contraire, on a régressé, on est revenu à l'anarchie. Et là encore, on peut citer justement les grands législateurs, vous savez, Napoléon, dont on célèbre le bicentenaire de la mort, à juste titre d'ailleurs, puisqu'il a édicté le code civil. Seulement, qu'est-ce que c'est que le code civil ? D'abord, c'est pas lui qui l'a édicté, c'était une commission de brillants juristes qui était d'ailleurs au travail depuis l'Assemblée législative, depuis le début de la Révolution, hein, et dont le travail avait consisté à prendre en vue toutes les coutumes de France et toutes les traditions du droit romain qui étaient enseignées dans les universités, et puis ensuite de le remettre au net. Hein. Donc le Code civil n'est pas une création ex nihilo. Le Code civil est une reformulation d'un droit beaucoup plus ancien. Alors, je termine sur cette notion des trois types de trois types de distinctions d'ordre. Ordre indistinct, naturel et social à l'époque primitive. Dualité des ordres, naturel et artificiel, entre les Grecs et une certaine date de l'Europe moderne. Et la troisième période, c'est qu'il faut prendre conscience qu'il y a un type d'ordre intermédiaire entre le droit naturel et le droit positif. Et c'est cet ordre que Hayek appelle ordre spontané, mais qu'on peut aussi appeler, en utilisant le vocabulaire des sciences, enfin de l'épistémologie moderne, ordre auto-organisé, self-organized order, un ordre qui s'organise lui-même, hein, qui n'est pas organisé par, qui n'est pas hétéro-organisé par un organisateur, hein, mais qui s'organise lui-même par une sorte d'essai et d'erreur, par un processus sur lequel on va pouvoir revenir si vous voulez tout à l'heure, mais par une sorte d'essai et d'erreur. Bon. Et parce que on expérimente, l'humanité expérimente un certain type de comportement dont les uns se révèlent bénéfiques, les autres se révèlent porteurs de conflits, et elle fait plus ou moins vite le tri, et on finit par avoir un corps de règles tel que immémorialement on ne se souvienne pas donc de cas où cette règle n'aurait pas été bonne, en quelque sorte. Et du coup, le plus sage est de garder la règle telle qu'elle est et de ne la changer qu'au compte-gouttes, en quelque sorte, hein, puisque l'expérience montre que si on dit que toutes les règles existantes sont fausses, comme avait imaginé Descartes, mais Descartes a été très sage à la différence de ses successeurs Hobbes et Spinoza, il avait dit qu'il fallait bâtir tout l'ordre social sur un savoir sûr et certain, hein, un savoir cartésien, hein, c'est-à-dire déduit logiquement à partir de prémices claires et distinctes. Et à mesure qu'on ferait ce travail, on construirait ce qu'il appelait l'arbre de la philosophie. Et cet arbre de la philosophie, l'image est trompeuse, parce que c'est une image biologique, un arbre, mais c'est plutôt une construction, si vous voulez. Et Descartes savait très bien que on pouvait espérer peut-être achever assez vite le tronc de cet arbre avec la physique, avec les mathématiques et la physique, mais que s'agissant des branches des sciences sociales, des sciences morales et des sciences juridiques, c'était d'une telle complexité que ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps pour qu'on arrive à les établir par A plus B, par démonstration par A plus B, si vous voulez, comme pour les mathématiques. Et en attendant, disait Descartes, il fallait une morale provisoire. Hein. Et alors, ses successeurs n'ont pas eu la même sagesse, puisqu'ils ont voulu bâtir tout de suite les ultimes branches. Et vous avez Spinoza qui a écrit cette Ethica more geometrico demonstrata, et éthique démontrée selon l'ordre géométrique, hein, comme si on pouvait démontrer la morale par A plus B, en quelque sorte. Alors, donc, tout ça conduit Hayek à envisager qu'il y a un droit qu'il va appeler nomos, hein, et qui est le fruit d'une tradition. Et c'est là que je réponds enfin à votre question. Hein. C'est que cette tradition n'est donc plus une nature, puisque c'est quelque chose qui a été fait par le temps et par les hommes. Mais ce n'est pas non plus du droit positif, au sens où un législateur pourrait décider arbitrairement, comme c'était la théorie de Hans Kelsen, ce fameux juriste allemand, hein, qui a approuvé le nazisme, bien qu'il n'ait pas eu le temps de voir toutes les conséquences. Mais à partir du moment où l'État édicte des règles, ces règles sont légitimes parce que l'État les a établies. Et vous avez encore beaucoup de gens en France qui pensent aujourd'hui comme ça. Et donc Hayek récuse ce qu'il appelle ce positivisme juridique, c'est-à-dire cette doctrine selon laquelle toute règle posée par un État, dès lors que l'autorité souveraine dans cet État est légitime. Alors, ça peut être un souverain, un monarque, mais ça peut être aussi une assemblée populaire ou même un référendum. Hein. Et en tout cas, dès lors que la source du droit est légitime, la règle est dictée par, depuis cette source, va être elle aussi légitime et il faut la prendre comme telle. Donc, si Vichy décide que tous les juifs doivent porter l'étoile jaune, ben voilà, on peut le regretter, mais c'est la loi. Et si les nazis décident d'exterminer tous les juifs, Tzigane et d'autres personnes en même temps pendant qu'ils y sont, eh bien, c'est la loi et Monsieur Eichmann voulait obéir à la loi. Et il croyait être un bon conscient en disant que, à son procès de Jérusalem, qu'il avait agi consciemment puisqu'il avait respecté l'impératif catégorique d'obéir à la loi. Sauf que cette loi était ignoble, était monstrueuse. Et là, du coup, je tourne le couteau dans la plaie parce qu'il se trouve qu'à Nuremberg, vous avez les avocats des accusés, parce que c'était un vrai procès avec des avocats, on dit que ce procès était illégitime puisque on allait reprocher aux accusés d'avoir fait ce que l'État leur ordonnait de faire, en quelque sorte. Et donc, il y a un grand principe de droit qui est nulla poena sine lege, hein, pas de sanction pénale sans loi préalable. Et les avocats soutenaient que les accusés nazis n'étaient pas soumis, n'ont pas contrevenu à une loi qui aurait été préalable. Hein. Ils ont au contraire agi conformément à la loi que leur imposait l'État dans lequel ils étaient. Et là-dessus, un procureur général français, M. de Menton, a répondu à cette critique en disant qu'ils n'avaient peut-être pas contrevenu aux lois de l'État nazi, mais ils avaient contrevenu aux lois naturelles. Voilà, qui leur imposait une certaine conscience et de traiter l'être humain d'une certaine façon. Donc, cette notion de droit naturel a eu un effet immédiat pour Nuremberg, à savoir que le procès était jugé légitime et il était mené jusqu'à son terme et les principaux accusés ont été dépendus. Hein. Donc, merci le droit naturel, si j'ose dire. Mais néanmoins, ça ne résout pas tout le problème du droit dans les sociétés modernes. Et donc, je ne sais plus si je réponds à votre question, mais je continue.
Je vous laisse terminer, mais après, j'aurais une question sur la notion d'État, justement, et sur ce qu'est l'État et qu'est-ce qui fait qu'il est légitime. Mais ça va un peu dans le développement que vous faites.
Oui, mais c'est une question. Enfin, si vous voulez, Hayek répondrait que l'État est légitime si et seulement si. Il fait respecter certaines règles transcendantes. Mais la question de savoir de quelles règles, enfin, quelles règles sont transcendantes, et c'est là le point suivant que je voulais souligner, c'est que dès lors qu'il admet que le droit évolue, hein, et que donc le droit positif ne peut pas par définition être toujours conforme à un même droit naturel, le droit est traditionnel, hein, eh bien, il a quand même une transcendance. Alors, je répète pour que tout le monde comprenne bien, hein, si vous considérez que le droit, vous avez un droit naturel et puis un droit positif. Le droit naturel tient à la nature. Hein, et j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais ça va de soi, depuis les Grecs, et surtout les Romains, avec Cicéron par exemple, hein, on explique très bien ce que c'est que le droit naturel. Enfin, les juristes romains l'ont expliqué. Hein, c'est que si vous avez une nature, cette nature est organisée, et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec les éléments de cette nature. Je prends l'exemple d'un corps, hein, d'un corps organisé. Vous avez un cœur, un foie, des poumons, des viscères, et vous ne pouvez pas vous amuser à ouvrir ce corps avec un scalpel et puis brancher différemment les artères et les veines par rapport à leur ordre naturel. Et puis brancher les poumons sur la vessie ou des bêtises comme ça, hein. Parce que tout le monde voit bien que si vous faites ça, votre patient va immédiatement mourir. Donc l'organisme, pour les théoriciens antiques du droit naturel, hein, la société est aussi un être de nature. C'est dit par Aristote, ça a été redit surtout ensuite par les stoïciens. Et cet ordre naturel qu'est la cité est organisé comme un corps humain avec différents organes. Et il ne s'agit pas que le droit positif joue n'importe comment avec tous ces organes. Donc le droit naturel, si vous voulez, ce sont des règles de comportement qui doivent se retrouver entre les hommes sous une forme ou sous une autre. Le droit positif, encore une fois, a une marge de manœuvre, mais jamais de façon contraire au droit naturel. Alors, je donne un exemple qui me fait chier beaucoup, mais évidemment, jamais Aristote ou Cicéron n'auraient admis le mariage pour tous. Hein, puisque, voilà, si vous voulez, vous avez toutes sortes de mariages dans l'humanité. Vous avez des mariages polygames, polyandres, monogames. Et dans les mariages polygames, vous avez toutes sortes de possibilités. Mais tout ça est très différent, mais tout ça est conforme au droit naturel, à savoir que l'être humain ne naît que engendré par un père et une mère, et il faut que pendant ses premières années, il soit protégé par le père et la mère. Bon, et donc la famille est de droit naturel. Hein. Alors, donc les lois positives qui disent mais non, pas du tout, on va marier des hommes entre eux et des femmes entre elles, et puis on se fiche des enfants et on va les faire naître. L'idéal, ça serait qu'ils naissent dans des tubes à essai. Hein. Bon, eh bien, évidemment, les théoriciens antiques du droit naturel auraient dit mais vous êtes complètement fou et vous allez provoquer des catastrophes. Hein. Alors, là, l'innovation, si vous voulez, des théoriciens libéraux modernes comme Hayek, c'est que ils admettent que l'on puisse innover par rapport aux coutumes ancestrales. Hein. Alors, je vous donne un exemple, puisque je parlais de la famille un instant. Hein. Vous avez eu, sous l'Ancien Régime, je remonte même pas à l'Antiquité, au Moyen-Âge, bon. Vous avez des familles patriarcales, bon, où le père conserve sur ses enfants une autorité au-delà même de leur majorité. Hein. Et il est propriétaire de la maison, et tant qu'il est en vie, les enfants lui doivent d'obéissance. Alors, le droit romain avait quand même créé un âge de majorité qui à l'époque était 25 ans, si je ne me trompe. Hein. Et puis, on a baissé l'âge ensuite à 21 ans. Bon. Mais les libéraux, surtout, ce qu'ils voulaient, c'était que les individus puissent éventuellement changer de métier, si vous voulez, qu'ils n'aient pas besoin. Si leur père est cordonnier, bah, que le droit n'oblige pas les enfants du cordonnier à être eux aussi cordonniers, ou n'empêche pas les enfants du boulanger de devenir cordonnier, si vous voulez. Donc, il voulait qu'il y ait une mobilité des états, enfin des professions, et une liberté de créer des entreprises qui ne soient pas brimées par les structures rigides, soit des familles patriarcales, soit des corporations de métiers, si vous voulez. Donc, ils ont encouragé une certaine évolution du droit. Hein. Mais du coup, ça a donné justement le code civil qui sacralise la liberté des contrats, hein, la liberté individuelle et la liberté des contrats, et qui définit clairement l'âge de la majorité, hein, et qui supprime aussi les ordres sociaux, et, bon, de telle sorte qu'on puisse créer une société catalactique, hein, au sens de Hayek que j'expliquais tout à l'heure. Mais si le droit évolue, ce n'est pas pour ça qu'il peut être, je le répète, changé entièrement du jour au lendemain. Parce que si on admet que les règles de droit existantes sont le fruit de milliards d'essais et d'erreurs faits dans le passé, d'ailleurs un passé y compris très, très extrêmement ancien, préhistorique, si vous voulez, hein, mais aussi d'un passé récent, d'il y a 4000 ans, il y a 2000 ans, il y a 300 ans. Bon, on a fait toutes sortes d'essais. Donc, et les règles qui existent aujourd'hui sont le fruit de ces essais et erreurs. Bien. Donc, si on les abolit, et comme le font les féministes idiotes d'aujourd'hui, là, qui appellent stéréotypes toutes les règles familiales, hein, ce ne sont que des stéréotypes. Donc, par conséquent, elles n'ont aucune valeur. Bon. Si on abolit ces règles, on supprime tout le savoir qui avait été incorporé dans les règles. Car dire que les règles sont le fruit d'un long temps d'essais et d'erreurs qui a fait que seules ont été gardées celles des règles qui rendent possible une coexistence mutuellement féconde et pacifique, hein, eh bien, ces règles, on peut dire qu'elles sont porteuses d'un savoir social, en quelque sorte. Hein. Donc, si vous supprimez ces règles, au nom du fait que le droit naturel n'existe pas et que vous pouvez créer n'importe quel droit artificiel, vous supprimez 95% des connaissances humaines. Voilà. Vous transformez une société savante, et elle est savante parce qu'elle a cette tradition en elle, vous la transformez subitement en une société sauvage, hein, qui n'a fait encore aucune expérience. Et le résultat des courses, c'est que vous créez de nouveau cette société de sauvage. Parce qu'évidemment, si vous éliminez les règles, les gens vont se taper dessus, et ils vont plus se faire confiance, plus aucune action collective ne va être possible, et on va tomber dans l'état d'anarchie. Donc, voilà pourquoi le droit peut être modifié sur des points précis, mais il ne peut jamais être récusé globalement. Donc, en fait, le droit positif joue le rôle de droit naturel aujourd'hui. Hein? C'est paradoxal de dire ça, mais si on entend par droit naturel une norme qui s'impose au législateur et qui empêche le législateur de faire n'importe quoi. Vous savez qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, quand l'Assemblée nationale vote une loi, cette loi peut être soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, qui peut considérer qu'elle est contraire aux principes qui sont énoncés, par exemple, dans le préambule de la Constitution et dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc, le législateur ne peut pas faire n'importe quoi comme règle. Hein. Et donc, il est tenu de n'agir que sur des points précis, partiels. Karl Popper avait même parlé de « piecemeal social engineering », ingénieriale partielle, en quelque sorte. Hein. La machine sociale est tellement complexe qu'on peut peut-être la réparer sur un point, la changer sur un petit point, mais il faut que ce soit toujours petit bout par petit bout. D'une part, pour conserver l'essentiel, pour que la machine puisse continuer à marcher, hein, et d'autre part, pour avoir le temps de voir si le petit changement qu'on a fait ne va pas créer une catastrophe. Parce que si ça crée une catastrophe, ben il faudra faire machine arrière. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question.
Tout à fait. Et alors, on voit bien effectivement que c'est une conception du droit qui est à la fois ancrée dans l'histoire et en même temps, Hayek apporte une véritable nouveauté par rapport à sa compréhension. Et ça signifie aussi que vous expliquez que lorsqu'on supprime les règles de droit, l'expérience, on revient à l'époque sauvage, en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir des sociétés qui sont extrêmement modernes, extrêmement techniques, mais qui, dans leur manière de faire, finalement, sont assez proches des sociétés primitives. Et ça mène ma deuxième question. Alors, malheureusement, on arrive un peu au terme de l'émission, mais est-ce que le développement technologique, et ça, c'est un point sur lequel Hayek évoque, le développement technologique, le développement technique, n'est-il pas dû aussi à des sociétés qui ont su s'organiser d'un point de vue juridique et qui ont un droit qui distingue justement ce droit positif et ce droit naturel?
Mais oui, c'est ce que je vous dis. Les sociétés modernes croient pouvoir et peuvent changer des règles. D'ailleurs, il faut changer les règles, en effet, en fonction des progrès technologiques. Par exemple, si vous avez des règles du droit de la famille, par exemple, qui sont antérieures au progrès actuel de la biologie, ces règles sont bâties sur le fait qu'aucune naissance ne peut avoir lieu plus de 9 mois après que le père ait eu des relations sexuelles avec la mère. Bon. Donc, vous aurez certaines règles du code civil sur la légitimation des enfants. Hein. Un enfant peut être reconnu comme légitime même s'il meurt après la mort de son père, à condition que ce soit pas plus de 9 mois ou 10. Enfin, on peut peut-être garder une marge. Mais disons qu'on a toujours su que 3 ans après la mort d'un monsieur, ce monsieur pouvait pas avoir d'enfant, par exemple. Bon. Si maintenant on peut congeler le sperme de ce monsieur et que son épouse légitime puisse avoir un enfant 4 ans après la mort du père, il faudra bien que le droit reconnaisse ce fait. Hein, alors, je ne sais pas exactement quelle est la position des juristes, mais typiquement, voilà un cas où on pourrait devoir changer une loi, mais pour que tout revienne au même, en quelque sorte. puisque si, le but des lois du Code civil concernant la famille, c'est précisément d'assurer une certaine unité de la famille et une certaine continuité de la famille. Donc, des évolutions technologiques peuvent conduire à changer la formulation de la règle, Mais on change pour rester pareil, pour sauver l'essentiel. Hein. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça dans les sociétés. Mais du coup, la grande confusion mentale des gens à propos du droit et à propos de la position des libéraux concernant le droit, c'est qu'ils croient que les libéraux croient que le droit est intangible. Bon, ce n'est pas le cas, puisque un des principaux théoriciens libéraux du XXe siècle, Hayek dont nous parlons, a démontré que ça ne devait pas être le cas. Mais que du coup, il faut procéder à la réforme du droit selon certaines règles. Alors j'ai dit globalement, ne pas faire d'innovation intempestive, ne pas faire de table rase, hein, ne pas prétendre rebâtir le droit sur une table rase, mais je vais vous donner un exemple plus précis qui va vous expliquer, puis on va terminer par là, parce que de toute façon on pourra pas terminer puisque la doctrine de Hayek sur le droit occupe énormément de place. Il faut lire Droit, législation, liberté, il faut lire l'autre livre fondamental qui s'appelle The Constitution of Liberty, la constitution de la liberté, mais ça va vous donner une idée précise. Hayek dit la chose suivante, par exemple, si je vais faire un voyage chez les Esquimaux. Alors, vous savez que les Esquimaux ont ou avaient une délicieuse coutume qui consiste à tuer leur vieux, hein, parce que la vie est extrêmement dure, évidemment, au pôle, hein, et il y a très peu de place dans les espèces de maisons que peuvent faire les Esquimaux, on fait un feu, mais qui ne chauffe pas beaucoup. Enfin bref, alors du coup, vous avez les adultes qui doivent être absolument en bonne santé pour travailler, pour nourrir le groupe. Hein. Et puis vous avez les enfants. Alors les enfants sont mis un peu loin du feu. Bon, ils vont se rapprocher à mesure qu'ils grandissent et qu'ils deviennent capables à leur tour d'aider au travail du groupe. Et puis les vieilles personnes, eh bien, elles mangent, hélas, hein, mais elles font de moins en moins ce qu'il faut pour fabriquer de la nourriture. Bon. Donc elles deviennent de plus en plus inutiles. Alors vient le moment où on leur fait comprendre qu'il ne faut pas qu'elles s'obstinent. Donc paraît-il, je ne suis pas allé voir les choses, mais ça a été rapporté par des anthropologues dignes de confiance, on fait une expédition, hein, et on prend un traîneau, et puis la vieille personne est assise à l'arrière du traîneau, et puis à un moment, la vieille personne se laisse glisser, bon, hors du traîneau. Et les gens qui sont dans le traîneau font semblant de ne pas s'en rendre compte. Donc ils continuent, vouant la vieille personne à mourir, mais la vieille personne le sait, d'ailleurs elle-même a fait la même chose à la génération précédente avec ses propres ancêtres, en quelque sorte. Alors là-dessus arrive un occidental, abus des droits de l'homme et abus de plein de principes, hein, et qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est scandaleux. Bon, il va chercher le vieux sur sa banquise, et puis il le ramène d'autorité dans la maison des Esquimaux. Bien. Et Hayek dit, c'est très bien d'avoir voulu faire évoluer le droit, hein, sur ce point, d'avoir récusé comme illégitime la règle qui consistait pour les Esquimaux à abandonner leur vieille personne. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant si vous laissez cette vieille personne dans cette société? Bon, supposons que les Esquimaux ils continuent à vivre comme avant. C'est un nombre d'hypothèses. Hein. Eh bien, les Esquimaux, ils vont toujours pas avoir de quoi nourrir cette vieille personne. Donc vous allez, au lieu de résoudre un problème, vous allez leur créer un problème insurmontable, hein, et ils vont finir quand même par la laisser tomber derrière un traîneau, et ce sera encore plus brutal que ça avait été fait la première fois. Donc dit Hayek, si vous voulez vraiment sauver cette vieille personne, il y a une seule conduite légitime, c'est que vous la preniez avec vous, que vous l'ameniez en Europe et que vous la nourrissiez avec votre argent jusqu'à la fin de ses jours, parce que il y a un contexte de règles en Europe. Et il y a un autre contexte de règles chez les Esquimaux. Et vous pouvez pas mélanger les règles. Hein, parce que les règles ont une logique, si vous voulez. Elles ont une logique immanente. Et c'est pourquoi Hayek, là aussi on peut terminer là-dessus, des développements extrêmement passionnants et complètement raffinés. C'est un chef-d'œuvre intellectuel, cette analyse du droit par Hayek. Hein. C'est que pour savoir quelles sont les règles de droit que l'on peut ou non modifier, il y a un moyen bien simple qui est le contentieux. Car au fond, les règles existent, elles permettent aux gens d'anticiper qu'ils ont le droit de faire telle ou telle comportement, d'avoir tel ou tel comportement. Et puis, dans quelques cas, il se trouve. Alors, vous avez des gens qui violent les règles. Le juge n'a pas de peine. Et si la personne est reconnue coupable d'avoir enfreint les règles, le juge la punit. Bon. Mais vous avez des cas plus délicats où les deux parties croient avoir agi légitimement. Elles ont anticipé qu'elles pouvaient, dans telle ou telle situation, se comporter légitimement. Mais ça a induit des comportements qui se sont révélés concrètement incompatibles. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il va falloir faire un travail, il va falloir regarder quelles règles chacune des parties avait en tête en agissant comme elle a agi. Et il va falloir, du coup, que le juge préfère une règle à une autre. On dit qu'une règle est plus valide qu'une autre, ou que dans cette circonstance-là, il fallait hiérarchiser les règles, par exemple. Et par conséquent, le contentieux va révéler des lacunes du droit. Et il n'est légitime de modifier le droit que pour compenser ces lacunes. Vous voyez, il n'est pas légitime d'utiliser le droit pour pouvoir changer la société, comme on essaye de le faire tous les socialismes depuis les Saint-Simoniens. Hein. Ils pensent que le droit naturel n'existe pas. Ils pensent qu'on peut créer n'importe quelle règle. Donc, si on juge que la société est mauvaise, qu'elle est injuste, qu'elle est violente, tout ce qu'on veut, on va créer des nouvelles règles et une nouvelle société. Alors, on ne peut pas faire ça parce que ça donne tous les malheurs des révolutions. Par contre, on peut changer le droit, mais on ne peut le changer que là où le contentieux a révélé une lacune. Voilà.
Bien, merci beaucoup, Philippe Nemo, d'avoir évoqué en quelques mots, d'avoir résumé les grandes lignes de la pensée juridique de Hayek. Je renvoie nos lecteurs au principal ouvrage de Hayek, donc « Droit, législation et liberté », qui est publié au PUF, et puis à votre thèse « La société de droit selon F.A. Hayek », qui est parue en 1988, mais qui est toujours amplement valable et qui permet donc de comprendre la vision hayekienne du droit dans toute sa complexité. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions. Vous pouvez retrouver donc notre série estivale de philosophie politique sur le site internet de Conflits,